Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, c'est un immense plaisir que d'être avec vous, la salle est comble. On espère que ce rendez-vous sur le corps malade de son environnement va vous passionner. Il nous manque un intervenant pour le moment, Olivier Gechter, qui ne devrait pas tarder. Je propose, plutôt que de vous faire attendre, qu'on commence sans lui et puis il nous rattrapera en cours de route. Alors, je vous présente déjà deux de nos invités de cette table ronde. François Moutou, épidémiologiste, grand expert de la faune sauvage, décidément c'est bien parti. Je vais me rattraper, vous en faites pas. Et François est un spécialiste de tout ce qui relève de la prévention de la santé alimentaire, si j'ai bien compris. Il nous en dira un petit peu plus de toute façon tout à l'heure. Nous avons aussi Magali Cousigou, qui est auteure et organisatrice de matchs d'écriture et qui va nous faire part de ses idées par rapport à ça, sachant que lorsqu'on parle de corps malade de son environnement, évidemment, on a en tête tous des films, des livres, scénarios catastrophes, et qui vont peut-être nous permettre de démarrer cette table ronde. J'aimerais bien commencer par lancer une question à François, justement, à ce propos, puisqu'on entend souvent dans les films, ou en tout cas dans les livres de science-fiction, des virus, des attaques de virus, de microbes apocalyptiques. Est-ce que c'est une projection impossible, ou alors est-ce qu'au contraire, c'est des choses dont il faut qu'on s'inquiète ?
Alors, juste pour commencer, une toute petite anecdote. Donc, je travaillais à l'ANSES, je ne travaille plus, je suis en vacances perpétuelles maintenant. Et donc, à l'ANSES, là, on travaillait sur la vache folle. Et quand on va à la cantine déjeuner, maintenant, depuis très longtemps, on ne se dit plus bon appétit, on se dit bonne chance. Voilà, donc on vit avec ces interrogations. Mais l'idée du méchant virus qui pourrait tuer tout le monde et en peu de temps, sincèrement, je pense que c'est assez peu probable aujourd'hui. On a connu dans l'histoire de l'humanité des épidémies très sérieuses comme la peste au Moyen-Âge, mais qui a tué au moins un tiers de la population européenne, ce qui est quand même considérable. Mais vraiment, on était dans un contexte hygiénique, social, politique, qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. On est beaucoup plus nombreux, c'est vrai. En même temps, on a quand même une très grande diversité génétique de tous les êtres vivants qui sont sur Terre. Et même dans cette salle, il y a certainement une très grande diversité de groupes sanguins, de tout ce qu'on peut imaginer, de groupes HLA. Et d'autre part, même si on bouge beaucoup, vous savez que sur les 7 milliards et quelques d'habitants, les avions transportent tous les ans plus de 3 milliards de personnes. Donc pas loin de 50% de... Alors, ça peut être parfois plusieurs fois la même personne. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Mais en même temps, on a des zones qui ne sont pas si facilement accessibles. Et donc, imaginez qu'un virus arrive à toucher tout le monde en trouvant une saturation des sites de réception cellulaire qui soit universelle et qui puisse aller dans toutes les régions du monde rapidement. Je pense que ce n'est pas évident à concevoir encore aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous rassurerait, mais voilà, c'est mon point de vue en tout cas.
Magali, est-ce que ce sont des préoccupations qu'on retrouve parmi les auteurs, les jeunes auteurs actuels ?
Il y a toujours des scénarios catastrophes, il y a toujours des séries, des films, des nouvelles qui racontent des histoires d'épidémies catastrophiques ou d'empoisonnements catastrophiques ou tout simplement de gros problèmes. La grippe espagnole avait quand même tué pas mal de monde assez rapidement et assez facilement, et de temps en temps, on a un virus de grippe, on est inquiet quand même. Je ne pense pas qu'on irait jusqu'à éradiquer la population humaine. Ça, effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà joué à un petit jeu qu'on a sur ordinateur où on incarne un virus. Il faut se débrouiller pour essayer d'éradiquer la population humaine. C'est super dur. Soit la maladie est visible et à ce moment-là, on la chope, soit elle est discrète, mais à ce moment-là, elle n'est pas virulente. Bonjour, Olivier. effectivement, incarner un virus et éradiquer la population humaine, c'est super dur. Ceci dit, même si tout le monde ne meurt pas, ça reste un scénario un peu inquiétant.
Et j'en profite donc pour accueillir Olivier Gechter, qui...
qui vient... Désolé.
Qui vient juste d'arriver. Alors, Olivier...
J'attendais dans l'autre salle.
Olivier, qui est l'auteur d'une série autour du Baron Noir, qui vient de sortir un ouvrage très récemment sur Chapemelon et Homme en Noir.
Ah non, ça, c'est une nouvelle gratuite, donc pas chère. Je vous invite à la télécharger.
Bon, bah, vous voyez.
Mais c'est dans le même univers que le Baron Noir. Et ce que je viens de sortir, c'est un livre de cuisine.
Alors, on va rebondir dessus.
Pas cher et très bien aussi.
Et qui s'intitule, il faut le dire.
Opération Kitchenette, vous pourrez le voir.
Et alors, Opération Kitchenette.
Oh, tu m'embêtes à changer le titre tout le temps, toi, là-bas. C'est mon éditrice.
Et alors, justement, dans la cuisine, il se passe des choses parfois pas très sympathiques. Alors, comment on se prémunit des microbes dans la cuisine chez toi ?
Déjà, la cuisine, personne n'y entre à part moi. Hein. Comme ça, c'est... le problème est réglé. Il y a le problème principal qui colle à peu près au thème, c'est la propreté du frigo, qui franchement pose des problèmes environnementaux, surtout quand on a un levain qui est là depuis 3 ou 4 ans. Donc, c'est quand même un bon gros tas de bactéries que j'aimerais bien entretenir. Et si jamais vous mettez de la levure à côté, il y a conflit. Vous voyez, la levure et le levain sont deux ennemis héréditaires. Donc il ne faut pas les mettre trop proches, sinon vous polluez l'un et l'autre. Oui, donc je gère l'environnement de mon frigo avec prudence et beaucoup d'eau de Javel.
C'est vrai que normalement, les réfrigérateurs, ça se soigne, ça se bichonne, ça se nettoie. Je ne sais pas qui le fait souvent. Moi, je ne suis pas un bon exemple. Hein. Mais il y a quand même des règles qui sont de bon sens, parce que c'est là qu'on met ce qu'on va manger. Et alors, c'est vrai que d'un côté, le froid est une très grande invention au niveau sécurité sanitaire en tant que qualité des aliments. Maintenant, vous savez qu'il y a des bactéries qui adorent le froid. Et donc, on a éliminé les risques avec les salmonelles et les colibacilles, par exemple. Par contre, les Yersinia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une bactérie qui adore le froid. Et donc, dans les frigos, on sélectionne les Yersinia. Et donc, on a tout le temps des systèmes liés au progrès, entre guillemets, qui apportent évidemment des choses très positives pour notre société. Et il y a un autre exemple, alors c'est quelque chose dont on va beaucoup parler maintenant avec le changement climatique, alors pas cette saison, mais en été, ce sont... les cuves d'eau des systèmes de réfrigération des bâtiments, des immeubles. Eh bien, c'est le milieu idéal, il fallait y penser, hein, pour une bactérie qui s'appelle Legionella et qui donne une maladie respiratoire qui s'appelle Legionella. C'est une bactérie rarissime, qui était très peu connue jusqu'à présent, qu'on trouvait dans des petites flaques, dans des petites mares et qui n'avait pas beaucoup d'impact. Et le jour où, il y a quelques décennies, on a mis en place ces systèmes de réfrigération dans les grands bâtiments, on lui a donné un milieu parfait pour elle, où elle se multiplie. Et vous savez que régulièrement, dans nos immeubles, on a des problèmes de ce côté-là, et ce n'est pas simple de s'en débarrasser. Donc, chaque système a certainement des avantages, mais il a forcément aussi des inconvénients. Et l'environnement, il peut être positif, négatif, mais c'est en fait nous qui allons agir un petit peu. L'environnement, il n'est ni gentil, ni méchant, il est là. Et c'est en fonction de ce qu'on va faire ou pas, qu'on aura ou pas des réactions positives ou négatives.
Effectivement, moi je suis d'accord sur le fait que l'environnement il est là ou pas et que enfin, on n'a pas attendu le 21e siècle pour tomber malade à cause de la nourriture mal conservée, à cause de pollen dans l'environnement, à cause de tout un tas de trucs qui existent. Alors il y a des choses qui sont nouvelles, évidemment, il y a toutes les maladies qui sont liées au progrès. Mais d'un autre côté, on vit quand même vachement plus longtemps et en vachement meilleure santé qu'autrefois.
Ah oui, d'ailleurs, on a découvert il y a quelques années une momie, un corps momifié dans le désert de Gobi, donc datant d'environ 6000 ans avant Jésus-Christ. Et on a une femme d'une trentaine d'années et visiblement morte de la silicose à cause des fumées de cuisine. Visiblement, il n'y avait pas d'autre endroit où attraper la silicose. Elle s'est carrément rempli les poumons de fumée à en crever. C'est là que je me suis dit qu'effectivement, l'hygiène actuelle a des petits défauts, c'est clair, mais ça nous permet quand même de dépasser allègrement les 70 ans.
C'est sûr qu'on a fait des progrès, évidemment, et personne ne doute de ça. À propos de la fumée, il y a encore des pays aujourd'hui où la cuisine est une pièce à part dans la maison, parfois c'est une case, il n'y a pas de cheminée. On fait le feu dans la pièce, et la fumée s'échappe par où elle peut, à travers le toit, à travers la porte, il n'y a pas de fenêtre. Et le cuisinier qui est dans cette pièce-là, je ne sais pas si vous avez déjà été en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ben, c'est un peu plus loin, hein, vers l'est. Enfin, ceci dit, en partant d'un côté comme de l'autre, on y arrive. Mais si vous allez à La Réunion, c'est un département français, les cuisines des maisons traditionnelles, c'est une case en dehors du bâtiment principal d'habitation où il n'y a pas de cheminée. Et donc, les gens respirent la fumée. Alors, c'était du bois, en général, que les gens faisaient brûler. Ce n'est pas du charbon. Mais certainement, ce n'est pas excellent pour l'arbre respiratoire.
Ah bah, toujours sur les cuisines, décidément. Et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai lu récemment certaines tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont un rituel en cas de décès. Alors, si vous avez tous déjeuné, je suis désolé. Hein. Mais en fait, on laisse le mort dans la cuisine jusqu'à putréfaction complète et jusqu'à ce que les os soient à l'air et qu'on puisse enfin enterrer les os. Et les gens se relayent autour du mort jusqu'à ce que le processus soit fini. Alors ça prend un peu de temps, mais bon, c'est la jungle, hein, ça peut aller vite. Et pour ne pas être incommodé par l'odeur, ils font un feu de fumée, en fait, un feu d'herbe, un feu de feuilles fraîches dessous pour en fumer et pas sentir l'odeur. Mais en échange, tous ceux qui y veillent se remplissent les poumons de fumée en permanence. Donc, et ils mangent à côté, ils font la cuisine à côté. C'est voilà, autre mœurs.
Alors, on va peut-être passer de la cuisine au salon. Oui, ça a été facile. On a parlé de petites bêtes qui nous agressent. Hier, je discutais avec Marc-André Sellos qui nous parlait des petites bêtes que nous hébergeons. Et il nous expliquait que dans le cadre de l'environnement, en fait, on était devenus chacun des citadelles isolées pour nos microbes et qu'en fait, certains devenaient malades par faute de ne pas avoir les bons microbes. Est-ce que ça, c'est des préoccupations aussi auxquelles les épidémiologistes sont sensibles ou c'est juste ce qui nous vient de l'extérieur qui vous intéresse ?
Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que l'épidémiologie travaille au niveau des populations. Les médecins soignent les gens malades et il faut les soigner, c'est logique, c'est cohérent. Mais l'épidémiologie, c'est de réfléchir au niveau des facteurs de risque qui feraient qu'une population soit ou pas exposée à tel ou tel agent potentiellement pathogène et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que ces individus de cette population ne soient exposés. Et c'est vrai qu'au niveau de chacun d'entre nous, on héberge, vous savez qu'on a plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines, qu'on a des virus, qu'on a toute une flore et une faune, faune peut-être pas, mais flore certainement en nous, et qu'on ne peut pas vivre sans. Si je retire de moi ce qui n'est pas moi, je ne suis plus viable. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur ce que c'est qu'un individu. C'est une symbiose entre différents êtres. Et on sait maintenant, avec les outils du séquençage génétique à haut débit, faire des profils de toutes les bactéries, virus qu'on peut héberger. Et on a des profils sur lesquels on peut voir apparaître des signatures correspondant à des bactéries potentiellement pathogènes, alors que l'individu est en bonne santé. Et simplement, dans son organisme, cette bactérie-là, avec l'environnement dans lequel elle se trouve, ne pose pas de problème parce qu'elle est parfaitement maîtrisée ou elle a une position qui ne permet pas de développer de choses négatives. Et si l'individu, inversement, vit un stress, par exemple un changement de température, il n'est pas habillé comme il faut, le froid arrive, il va y avoir non pas un envahissement par quelque chose d'extérieur, mais une modification de la relation entre toutes ces différentes espèces de bactéries. Et ça peut se traduire par un rhume, comme j'ai actuellement, par exemple, ou par quelque chose de pas forcément grave, mais qui peut être, comme les rhumes, c'est souvent embêtant, même si, heureusement, c'est rarement très grave.
Une maladie, finalement, c'est une question d'équilibre. Et on est un terrain, et finalement, le théâtre des opérations, l'équilibre, quand on se retrouve en déséquilibre, on va développer potentiellement une pathologie qu'on a en nous depuis longtemps. Je ne sais pas, il doit y avoir en moyenne, une personne sur cinq qui fait régulièrement des boutons de fièvre. Le bouton de fièvre, on l'a en permanence. On ne fait pas forcément une poussée de boutons de fièvre tout le temps. Mais quand on est fatigué, quand on est immunodéprimé, quand il fait froid, d'où le côté, cold sore en anglais, on va avoir d'un seul coup un moment où on va développer un truc. Et finalement, une maladie, ça n'existe qu'à partir du moment où on n'arrive plus à maintenir un certain équilibre dans notre organisme.
Ça intéresse, le bouton de fièvre, c'est un petit virus à ADN qui s'appelle un herpès virus et que pratiquement nous hébergeons tous. Et chaque primate, espèce de primate, a son herpès virus. Et autant notre herpès virus est très peu pathogène pour nous, mais il peut tuer des singes si on leur refile avec un petit baiser par-ci, un petit baiser par-là, on peut les tuer. Et inversement, il y a un herpès qui s'appelle herpès B, qui vient de certains macaques et qui est capable de tuer des humains en quelques heures.
Et c'est peu pathogène pour nous, mais si jamais vous chopez des boutons de fièvre, n'embrassez pas les petits.
Et en parlant de faune, on a quand même 60% de personnes qui ont la toxoplasmose.
Ah, ça, c'est une belle maladie, ça. Enfin, si je puis dire.
C'est pour les amis des chats.
Voilà, les félidés sont les. Alors c'est un parasite protozoaire, c'est un tout petit animal d'une seule cellule. Et le chat ou les félidés sont les seuls animaux connus, donc seuls mammifères, chez lesquels le parasite fait son cycle reproducteur sexué. Alors qu'il peut se transmettre de façon asexuée, végétative, dans d'autres espèces. Et nous, on l'attrape régulièrement en mangeant de la viande de ruminants. Pas très cuite, des côtelettes un peu saignantes. La viande de mouton est une bonne source de toxoplasme. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on élimine l'espèce humaine dans le schéma, ça existait avant que l'homme soit présent, et en fait, ça cyclait avec les rongeurs et les chats. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce parasite, il est capable de modifier le comportement de la souris qui héberge la forme végétative pour la rendre amoureuse des chats. Alors, vous imaginez une souris qui veut aller faire un bisou à un chat, ça se termine en général mal pour la souris, mais le parasite a bouclé son cycle et peut se reproduire chez le chat. Et donc, c'est vraiment un exemple de parasite qui va modifier le comportement de son hôte. Ça, c'est vraiment assez fort.
J'ai lu qu'il y a une étude qui va démarrer pour vérifier si la toxoplasmose ne modifie pas également un petit peu le comportement de l'humain, ce qui expliquerait pourquoi on est gaga des chats. Alors, avec un peu de chance, ce n'est pas vrai.
De toute façon, on est mort, c'est trop tard, hein, le lolcat a vaincu.
Alors, au niveau des humains, il y a déjà quelques études qui existent, hein, sur la toxoplasmose, et il semblerait que typiquement, ça ralentisse un certain nombre de réflexes par rapport au danger. Et on a une surprésence de personnes atteintes de toxoplasmose dans les gens qui ont des accidents de la route. Okay. Lire pour ça, jamais seul.
60% de contaminés ici, hein, faites gaffe.
Au niveau de, pour un auteur, de ces épidémies, ces virus, ces protozoaires qui sont capables de manipuler l'humeur, de manipuler le comportement, est-ce que c'est une source d'inspiration ou alors est-ce que c'est tellement ou est-ce qu'on s'en méfie parce qu'on a des difficultés à les contrôler?
J'avais écrit une histoire où j'avais parlé de l'environnement, mais pas des parasites, parce que le parasite, finalement, il a un programme très très simple. La douve du foie va pousser la fourmi à monter en haut du brin d'herbe pour se faire bouffer par une vache. La modification de comportement, en fait, elle est pas énorme, quoi. Donc, comme ressort dramatique, je suis pas absolument sûre que je saurais m'en servir. En fait. Mais bon.
Bon, j'ai des petites idées dans la tête là-dessus, mais c'est pas prêt de sortir. Hein. Sur l'environnement en général, on pense aux toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir à essayer de terraformer une planète d'où on vient pas et qui serait un petit peu viable. Qu'est-ce qui pourrait nous attendre? Quelles particules pourraient nous polluer? Quels micro-organismes pourraient s'adapter au milieu et nous tuer en passant? C'est vrai que ça ouvre plein de possibilités, mais enfin, j'attaque pas une écriture sans être vraiment à fond calé sur un sujet, donc c'est pas pour tout de suite. Par contre, je me souviens d'une nouvelle qui était parue sur Bifrost, où j'ai oublié le nom comme d'habitude, ça va peut-être, ceux qui ont lu Bifrost il y a 2-3 ans, ça va peut-être leur revenir. Ça se passait sur Mercure, il y avait une anomalie, enfin il y a une vraie anomalie dans Mercure, et là le thème c'était que c'était un objet extraterrestre qui provoquait l'anomalie, et dedans on trouvait les descendants des pilotes qui au bout de 2 milliards d'années étaient devenus des parasites, qui vivaient de façon parasitaire sur ce qui était autrefois leur animal de compagnie, qui eux avaient évolué d'une autre façon. Donc ça avait inversé, l'animal de compagnie était devenu le truc intelligent, et le pilote était devenu le parasite de l'animal. Et ça, j'avais trouvé ça assez puissant quand même, comme principe.
Alors moi, je ne lis pas du tout de science-fiction, je ne connais pas du tout ce domaine, mais je vous conseille de lire des livres de parasitologie. Il y en a un qui s'appelle...
Avec des images, c'est plus moche.
Non, mais c'est pas vrai. Ou en des cycles, simplement, vous avez la larve, la nymphe, l'adulte, les autres, les cheminements, comment ça passe. Mais vous avez quand même des parasites qui ont inventé des trucs. Il fallait vraiment y penser. Hein. C'est pas spontané et ça marche. Et quand on imagine le nombre de tirages de dés pour arriver à boucler un cycle comme ça, et un cycle qui n'est pas du tout rond d'ailleurs, hein, ça passe par des zigzags incroyables, je pense à un livre qui s'appelle Interaction durable, qui a déjà quelques années, qui est édité chez Masson. L'auteur s'appelle Claude, je ne sais plus comment, mais ça c'est vraiment extraordinaire. Et donc il y a des scénarios là-dedans que, objectivement, personne n'imaginera.
Mais un exemple.
Mais c'est, on a déjà évoqué ces parasites qui... imagine un parasite dans l'eau. Alors, je ne sais plus par où il passe ni où il va, mais son milieu de déplacement, c'est le film, la pellicule de la surface de l'eau. Il se déplace sur le film de la surface, et c'est la mer en plus. Hein, et c'est là qu'il se déplace pour aller de l'hôte intermédiaire vers l'hôte principal. L'hôte intermédiaire, c'est là où la larve se situe. Et l'hôte principal, c'est l'endroit où le parasite sera adulte et fera son cycle reproducteur. Mais ils empruntent des cheminements extraordinaires et certains ont trois autres successifs avant de boucler leur cycle et ils le bouclent. Alors, il y a évidemment beaucoup de déchets, mais le parasite n'a pas non plus intérêt, sans faire de finalisme, à tuer son hôte, parce que sinon, il se suicide. Donc, il faut qu'il trouve la façon de faire pour arriver à prendre ce qu'il doit prendre, sans le faire disparaître, sinon il est cuit. Donc il y a vraiment des... Alors cette notion d'équilibre en écologie, elle est compliquée parce que l'équilibre n'est pas la stabilité. L'évolution, c'est tout sauf équilibre. S'il n'y avait pas d'évolution,
c'est tout sauf stable.
On serait pas là. Et donc ce sont des équilibres dynamiques qui passent leur temps à se re-questionner, à se remettre en mouvement et qui arrivent tout le temps à des situations, à des rapports de forces différents. Mais sur des grandes durées de temps, et ce sont des durées qu'on a du mal à appréhender, nous, on résume en mandat électoral. Mais je vous assure qu'un mandat électoral à l'échelle de la vie, ça n'a aucun sens. Et la vie n'a pas du tout fonctionné sur ce rythme-là. Et il ne faut pas l'oublier, ça.
Juste pour répondre à ta question de départ, il y a un truc qui m'est revenu à l'esprit. Il y a la série The Expanse. Alors, je n'ai pas lu les romans, mais dans The Expanse, il y a comme ça une espèce de chose qui a été fabriqué par les gens et qui modifie leur comportement complètement, qui supprime, alors il y a qui essaye de se répandre, un truc comme ça, et à un moment il y a des scientifiques à qui on a juste retiré complètement toute empathie, donc ils sont prêts à faire les expériences les plus horribles parce que ils veulent voir ce qui se passe et puis ils n'ont plus aucune empathie, donc ils peuvent faire ça sur... Et donc ils font une expérience absolument horrible à l'échelle d'une planète entière. Enfin, d'une colonie, hein, c'est juste une petite lune, il y a quelques millions d'habitants, c'est pas...
En parlant de ça, justement, sans vouloir aller dans le glauque volontairement, on a un virus qui est arrivé, enfin, dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui est le virus Ebola, par exemple. Est-ce qu'à ce niveau-là, on a eu le virus de la... C'est la variole, c'est ça, hein, qui est complètement éteint, mais qui reste stocké dans quelques laboratoires. Pour les épidémiologistes, quelle relation on a au virus éteint ou préservé soigneusement dans des endroits sécurisés?
Alors, le virus de la variole, c'est un virus qui, pour autant qu'on l'ait compris, est un poxvirus, dans la famille, enfin, le groupe des poxvirus, qui était propre à l'espèce humaine et qui n'avait aucun réservoir autre que l'espèce humaine. Ça ne circulait qu'entre nous. Et donc, à partir du moment où on avait soit vacciné les gens, soit on les avait retirés au risque du virus, on pouvait espérer maîtriser la maladie. Donc, on a vacciné la population jusque dans les années donc, 70. Et en 79, je crois, si je ne me trompe pas, l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, a annoncé qu'on avait éradiqué la variole. Et la question qui s'est posée à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait des laboratoires qui ont des souches de variole chez eux et les virus se conservent dans des congélateurs à moins 80. Alors, en général, dans chaque laboratoire, il y en a plusieurs congélateurs parce qu'un congélateur, c'est vrai chez vous aussi, ça a un problème, c'est que ça tombe en panne de temps en temps. Et quand ça tombe en panne, ça dégèle et tout ce qui est dedans, bien sûr, est détruit. Et alors, pour faire les choses équilibrées, donc imaginez les années 80, c'est encore la guerre froide, même si apparemment on s'en rapproche à nouveau. Et donc, on avait laissé une souche dans un laboratoire russe, soviétique à l'époque, et une souche dans un laboratoire américain. Comme ça, on était bien conservés, il y en avait un à droite, un à gauche, on était au milieu, bon. Et il faut dire qu'entre-temps, Il y a eu une histoire assez triste qui s'est passée dans un laboratoire britannique qui avait encore du virus. Lors d'une manipulation dans la salle haute sécurité, il s'est passé une défaillance dans la manipulation et le virus est parti dans le système d'aération et a contaminé une secrétaire dans un étage supérieur qui était hors zone de laboratoire, donc hors zone de protection, et qui est morte de la variole. Et le directeur du laboratoire s'est suicidé en conséquence. Donc évidemment, ce laboratoire a éliminé ses souches de variole. Et aujourd'hui, on est dans un cas de figure assez curieux. On garde ces deux souches ou on ne les garde pas. Certains disent c'est dangereux de les garder. D'autres disent on a peut-être besoin de les conserver si jamais il y avait des gens mal intentionnés, non identifiés, qui ont toujours des souches. Et comme ça, on pourrait éventuellement faire un vaccin. Il y a même des discussions au plan éthique en disant, est-ce que nous avons le droit, nous, êtres humains, d'éliminer un virus qui n'est pas du tout de notre fait, qui était là avant nous, qui nous a peut-être coûté beaucoup de vie, mais qui finalement fait partie de ce qui existe sur Terre. Et c'est intéressant que dans ce débat-là, sachant le bilan de la variole, on ait encore des arguments de ce plan-là pour discuter.
Oui, parce que du point de vue historique, je vais peut-être pas me tromper de beaucoup, mais j'ai entendu parler de 60% de mortalité sur une épidémie et il y a eu des pays entiers nettoyés au virus de la variole. Alors moi, si jamais on cassait l'éprouvette, on l'achetait au feu, ça ne me gênerait pas trop, hein, honnêtement.
Je rapporte ce qui s'est dit, sachant que le virus était connu dans l'ancien monde, où il y avait certainement, c'était la petite vérole, et il y avait certainement pas mal de pertes, mais pas mal de gens qui survivaient aussi. Inversement, quand les Européens sont arrivés en Amérique, les Amérindiens n'avaient aucune connaissance immunitaire de ce virus. Et en fait, ce qui a décimé les Amérindiens, ce ne sont pas les armes des conquistadors, ce sont les virus de la rougeole, de la variole, de la grippe, etc. Et ça a été fait à un moment, même volontairement. Au début, c'était une surprise. Et puis après, ils ont compris comment on pouvait aller plus vite.
Et à ce propos, on parlait tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, les avions voyagent beaucoup, se déplacent beaucoup. Probablement, il y a moins d'endroits où il y a un groupe d'humains qui ne connaissent pas du tout une des maladies qu'on a, parce que les systèmes immunitaires ils doivent être un petit peu plus mélangés aujourd'hui qu'il y a quelques siècles.
Sans doute. Alors, si on vient sur Ebola, c'est tout à fait différent en ce sens que donc, c'est un virus différent. On n'est pas tout à fait sûr du réservoir. Le réservoir, c'est l'écosystème. Alors, ça peut être une espèce, mais parfois, c'est plutôt l'écosystème avec quelques espèces à l'intérieur dans lequel ce virus s'entretient et se perpétue. On a pointé du doigt des chauves-souris frugivores africaines, mais on n'a pas encore la preuve formelle que ce sont bien ces chauves-souris qui sont réservoirs. Et l'espèce humaine, comme les grands singes, les chimpanzés, les gorilles, sont des victimes. Alors, comment ça se passe? On n'est pas tout à fait sûr, mais dans la forêt tropicale équatoriale, les arbres ne sont pas comme chez nous, avec les floraisons au printemps et la fructification à l'automne. Chaque arbre a son rythme propre, quelle que soit son essence. Et vous avez des arbres qui sont pleins de fruits pendant quelques temps, sur une grande surface, c'est le seul arbre fruitier comestible accessible. Et donc, vous avez le jour les frugivores diurnes, la nuit les frugivores nocturnes. Et donc, les singes et les roussettes peuvent consommer les mêmes fruits. Et l'idée, c'est que si des singes mangent des fruits qui ont été un peu mâchouillés la nuit précédente par des roussettes qui seraient porteuses de ce virus, ils le récupèrent et ils en meurent. Il y a des endroits du Congo, Brazzaville, où on pense que 80% des gorilles ont disparu avec Ebola dans les 10 dernières années. C'est quelque chose de sérieux. Et là-bas, il se trouve que les populations locales mangent de la viande de brousse, donc de la viande sauvage, du gibier. Il n'y a pas d'élevage. Ce n'est pas des zones où on élève des vaches, des moutons ou des chèvres. Et donc, quand ils tombent sur un gorille mort, ils le ramassent. Alors, quelquefois, ils le chassent. Et quand il est mort, ils n'ont même pas besoin de le chasser. Sauf que pendant 48 heures, le cadavre est contaminant. Et donc, les chasseurs qui vont le manipuler, qui vont le dépecer, qui vont préparer la viande pour le village, vont s'exposer. Et forcément, la peau n'est pas hermétique au virus, donc même sans blessure, on peut se contaminer. Et après, c'est une fièvre hémorragique. Il y a des souches qui tuent quand même 90% des gens exposés. Donc c'est quand même très, très méchant. Mais le virus est connu depuis les années 1970. Et dans les premières épidémies décrites, on avait un village ou deux villages qui étaient touchés. Effectivement, à l'époque, des villages extrêmement isolés. Et quand on avait connaissance de l'information, et pratiquement tout le monde était déjà mort, Et puisqu'il n'y avait plus personne, le virus avait disparu avec. Donc au bout de 48 heures, les corps ne sont plus contaminants. Et aujourd'hui, la grande épidémie de 2015-2016, qui a beaucoup fait parler d'elle, pourquoi est-ce qu'elle a fait parler d'elle? Elle est apparue dans l'ouest de l'Afrique, pas du tout Zaïre, Congo, dans le cœur du continent, mais dans des zones beaucoup plus peuplées, de la Guinée, du Libéria, du sud du Sénégal, avec lesquels il y a beaucoup plus de mouvements hors d'Afrique vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. Et nous avons commencé à nous inquiéter d'Ebola quand on a compris que peut-être des gens pouvaient rentrer d'Afrique avec le virus. Alors c'est plus ou moins sympathique pour les gens là-bas, mais l'OMS a commencé à s'intéresser sérieusement et à lancer des équipes sur la mise au point d'un vaccin depuis 2015-2016. Quand on a eu les foyers autour de la Guinée, dans le Conakry, et avec quelques malades qui sont partis avec le virus hors d'Afrique. Et actuellement, il y a à nouveau de l'Ebola au Zaïre. Alors, vous savez, cette zone où tout le monde s'entretue, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est chez qui, c'est entre l'Ouganda, entre le Rwanda, entre le Zaïre, il y a des factions armées dans tous les sens. C'est là qu'on extrait les métaux rares pour les téléphones portables. Et là-dedans, il y a toujours des gens qui essayent de faire profit de la situation. Et là-dedans, vous avez Ebola. Et croyez-moi, pour aller dire aux gens, on vient protéger contre Ebola dans ce contexte-là, ce n'est pas très simple. Le virus profite de la situation, indépendamment de tout parti politique, de tout mouvement, tout ce qu'on peut imaginer. Le virus y profite complètement de cette instabilité.
Est-ce que... Alors, je regarde l'heure qu'il est. Il nous reste 24 minutes. Oui, je vois déjà des mains se lever. Donc, est-ce que ça va être possible peut-être de faire passer le micro? Ça va être un peu compliqué. Alors, je vois une question ici. On va se faire passer le micro les uns les autres.
Oui, merci. Vous parlez beaucoup de virus et transmission du virus depuis le début. Moi, je dois avouer que j'avais presque l'impression de m'être trompé de salle parce qu'on a beaucoup envie d'entendre parler de virus qui ont été créés par l'homme et qui sont les pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc. Et vous n'avez pas du tout abordé le sujet, donc est-ce que vous pourriez nous parler de ça?
Eh bien, on y va.
Enfin, moi, j'avoue que ça m'intéresse aussi parce que vous avez entendu tous parler de l'épidémie de main, de bébés sans main. C'est dans un village où j'ai habité. Donc, si c'est environnemental, j'avoue que moi aussi, je suis intéressé par avoir des infos.
Il y a, l'actualité n'arrête pas d'en parler de ces trucs-là. C'est il y a 15 jours qu'ils ont sorti une étude où ils ont mis en relation une étude, alors probablement épidémiologique, probablement longue, sur les cancers chez les gens qui mangent bio par rapport aux gens qui mangent pas bio. Où ça fait des décennies qu'on nous dit que c'est contrôlé, que les pesticides qu'on met ils sont pas trop dangereux et que tout va bien. Mais que quand on regarde finalement sur une population statistiquement un peu importante, on constate quand même une différence en fonction de ce qu'on met dans notre alimentation. Donc oui, il y a un problème lié à un problème d'ordre anthropique en fait.
Alors, ce qui est compliqué dans ces enquêtes épidémiologiques, c'est que le principe d'une enquête, c'est de comparer deux populations qui, a priori, ne diffèrent que sur le critère qu'on veut étudier. Et si on prend des gens qui mangent bio et des gens qui ne mangent pas bio, on est sûr d'une chose, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes populations. Ce ne sont pas les mêmes groupes sociaux, ce ne sont pas les mêmes régions habitées. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'autres différences que le fait de manger ou pas bio. Et du coup, ça va rendre beaucoup plus compliqué l'interprétation. Alors, ceci dit, c'est évidemment du bon sens que si on mange un produit qui n'est pas plein de produits chimiques rajoutés, il n'y a pas de raison que ça apporte des contre-indications. Et que si on peut éviter, ce serait sans doute mieux. Alors, on est dans un schéma compliqué parce que il me semble avoir lu plusieurs fois, donc c'est peut-être pas complètement idiot, que la chimie s'est pas mal développée après la Deuxième Guerre mondiale. Ça avait commencé avec la Première, ça s'est poursuivi avec la Seconde. Et les entreprises qui ont travaillé dans ce sens-là, c'était celles qui avaient été sollicitées pendant les guerres mondiales pour la lutte chimique, pour les armes chimiques. Et donc, on a reconverti ces entreprises vers de la chimie pour l'agriculture, pour contrôler des insectes qui posaient des problèmes à la santé ou production. Et donc, on est dans une logique où on a mis de l'économie dans... on vit dans un monde économique, évidemment, mais d'une façon particulière. Et il est possible que, même si après la Seconde Guerre mondiale, il fallait nourrir beaucoup de monde, il y avait toute une partie de l'Europe à reconstruire, et pas que l'Europe à reconstruire, il fallait aller vite. Est-ce qu'on avait d'autres choix que celui-là ? En tout cas, aujourd'hui, on est toujours dans une logique où la chimie est très présente, et c'est clair qu'elle ne peut que nous poser des problèmes. Quand on travaille sur des pesticides, sachant qu'on est tous convaincus que la vie, c'est la même, que ce soit une bactérie, un insecte ou un vertébré, prétendre que certaines molécules sont innocentes, offensives pour les uns et vont tuer les autres, ce n'est pas simple à admettre d'un point de vue biologique.
Et puis, on travaille aussi à des échelles. Enfin, c'est sûr qu'on serait une population de 200 millions de personnes réparties sur toute la Terre. On pourrait peut-être se permettre de mettre des pesticides pour cette population-là sans que ça risque d'empoisonner absolument tout. Mais là, on a quand même un stade où on ne peut même pas freiner avec sa voiture sans empoisonner les gens avec des particules fines. On ne peut plus en mettre de désherbant quelque part sans foutre en l'air la nappe phréatique. Là où habitent mes parents en Saône-et-Loire, l'eau n'est plus potable. On l'a fait venir de 40 km depuis une vingtaine d'années. Avant, on buvait de l'eau du coin.
La problématique se pose au niveau des pesticides, au niveau de la pollution. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, donc je ne vais pas aller trop loin. Il y a un autre problème qui est peut-être aussi que l'environnement, en fait... c'est quoi ? C'est l'endroit dans lequel on vit, mais il y a aussi la problématique de à qui ça appartient. Tu parlais de l'eau. Aujourd'hui, à Vittel, l'eau de source normale du coin, elle appartient à la société Vittel. Les villes, pour avoir leur eau, elles doivent faire venir leur eau d'ailleurs. Alors, c'est Vittel qui paye pour, mais elles font quand même venir leur eau d'ailleurs. Il y a finalement des captation de ressources qui appartiennent à tout le monde pour des intérêts privés qui posent problème. Enfin, moi qui me pose problème perso. et à côté de ça, il y a des choses comme notre air, il appartient à personne, donc c'est pas grave, on déverse tout ce qu'on veut dedans. L'air sera peut-être propre à partir du moment où on commencera à le vendre.
Ouais, mais pour revenir à votre problème d'échelle, regarde... Le colorant blanc qu'on met dans l'alimentation, comment ça s'appelle déjà, au secours ?
L'oxyde de titane.
Voilà, l'oxyde de titane. On nous a dit pendant je ne sais pas combien de temps, il n'y a pas de problème, ça va, tout va bien, pas de souci. Bon, on commence à voir qu'on le retrouve à des endroits du corps humain, genre dans des cellules où on n'a pas trop envie de le voir. Et on ne sait plus du tout si toutes ces microparticules sont vraiment si anodines que ça. Donc on est quand même dans un flou artistique tel... que je me dis que l'industrie chimique devrait peut-être, enfin, jusqu'à présent, à travailler sans principe de précaution, en disant, puisqu'a priori en laboratoire sur 20 souris, ça pose pas de problème, ça ira bien à l'échelle d'une population. Je pense que maintenant, il faudrait peut-être changer un peu de paradigme. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Très récemment, j'étais très surpris, le nouveau ministre de l'Agriculture, qui à propos de pollution, de je ne sais plus quel pesticide, a dit, c'est aux scientifiques de démontrer l'effet négatif. Et attendez, normalement, on ne met pas sur le marché un produit si on n'a pas testé l'absence d'effets négatifs. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est complètement renverser la logique. Et légalement, ce discours est faux. Il n'est pas acceptable, il ne correspond pas au texte. Mais, en même temps, tout à l'heure, j'ai dû déjà le dire ce matin, si je me répète, excusez-moi, mais normalement, enfin, ce qui se passe dans la réglementation, c'est qu'on teste les molécules une par une pour la mise sur le marché et on teste l'effet toxicité aiguë. Donc vraiment, on en mange beaucoup en pas longtemps. Qu'est-ce que ça vous fait là ? On ne teste pas sur vous, on teste sur des souris ou sur une autre espèce animale en général. Sauf que la réalité, c'est qu'on est exposé à des quantités de molécules différentes en cocktail, c'est-à-dire à très faible dose, mais toutes mélangées les unes sur les autres. Et ça, on n'a jamais testé l'effet que ça peut donner.
On ne pourrait pas le tester. Ce serait quoi le protocole de test ?
Il faudrait au moins y réfléchir. On continue à nous dire que c'est inoffensif, on l'a testé... tout seul, en dose aiguë, ça n'a pas d'impact. OK, mais ce n'est pas ça que nous rencontrons. Donc, on nous répond à une question qui n'est pas celle à laquelle nous sommes confrontés. Donc, il y a un décalage entre le protocole qui aboutit à l'autorisation de mise sur le marché et l'exposition à laquelle nous sommes confrontés. Comment fait-on pour arriver à mettre les deux en phase ?
Alors, il y a un autre truc aussi, c'est... Là, je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est qu'on ne peut pas non plus arrêter de vivre. Une molécule inoffensive, ça n'existe pas. L'eau, si on en prend suffisamment, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut en boire beaucoup, mais ce n'est pas bon pour la santé. Il y a une question de dose, il y a une question de combinaison, on reparle du terrain dont on parlait au début, et une question d'équilibre. Vivre en ville, ça vous empoisonne, ça abîme les poumons autant que de respirer des pesticides à la campagne, ou il y a tout un tas de choses. Le fait est que, à moins d'aller vivre dans une chambre, même non, on vivrait dans une pièce complètement close, isolée de tout, on trouverait probablement le moyen de tomber malade quand même des bactéries qu'on a dans notre propre corps. Le risque zéro, ça n'existe pas.
Non, mais c'est pas. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas à ça que je pense. Si on prend l'exemple de notre agriculture, il me semble qu'on forme nos agriculteurs dans une logique de rendement. Et c'est la course à celui qui aura le plus grand nombre de quintaux à l'hectare de ce qu'il va produire. Et il pourra dire à ses copains, j'en ai produit plus que toi. Si un de ses copains raisonne autrement en pensant profit, c'est-à-dire le gain financier, et qui met moins de pesticides, moins d'intrants chimiques, et qui produit un peu moins de céréales derrière, peut-être que malgré tout, son gain financier sera supérieur à son collègue qui aura beaucoup plus produit en quantité et en rendement. Et donc, si on renversait la logique du rendement par celle du profit au niveau de l'agriculture, on aurait peut-être déjà des productions plus rassurantes pour notre environnement, sachant que nos produits chimiques ont complètement éliminé toute la faune, la microfaune du sol, qui était vitale pour les plantes, et on compense cette absence par de la chimie, toujours plus, toujours plus. Mais on n'a pas du tout compris comment fonctionnait le sol. Et là, on remplace le fonctionnement naturel du sol pour avoir des rendements qui n'ont peut-être plus beaucoup de sens. C'est pas... Parce que si la France dit, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, on va nourrir le monde, attendez, on va pas gaver le monde. Il y a une surproduction d'un côté, on manque ailleurs. Trouvons plutôt les façons intelligentes de partager ce qu'on est capable de faire, mais sans surproduire, ça n'a pas de sens. Et en respectant le sol et l'environnement, on protège également, on respecte également les individus que nous sommes tous.
Merci beaucoup. On va ouvrir à une autre question. Il me semblait avoir vu quelque part par ici le micro. Merci beaucoup.
Moi, j'avais une question par rapport à tout ce qui est maladie que l'homme développe, notamment, je pensais aux bactéries pan-drugs résistantes, etc., qu'on voit émerger et l'impact que ça peut avoir. Et si en science-fiction ou en médecine, en épidémiologie, on voit une solution à ça qui se profile, ou si ça reste une énigme en fait.
Bon, c'est pas vraiment une énigme, c'est les big bugs. Enfin, c'est des bactéries maintenant de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, qui sont pratiquement résistantes à tout. Et alors, c'est des schémas très compliqués et humainement très difficiles. Chez nous, en Occident, quelqu'un qui a la tuberculose, il aura un traitement avec 3 antibiotiques sur une longue durée. Et globalement, ça sera pris jusqu'au bout et on pense qu'on éliminera la bactérie et qu'on pourra soigner la personne. Vous êtes des pays moins nantis au point de vue organisation, finances, société, système de soins, où on diagnostique la maladie, on dit à la personne ce qu'il faut faire, elle commence un traitement, elle n'a pas les moyens de continuer, elle arrête en cours de route. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va peut-être finir par mourir de la maladie. Et entre-temps, elle aura donné à sa bactérie des fonctions de résistance aux antibiotiques qu'elle aura utilisées parce qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas traiter ces gens-là, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a des situations qui vont favoriser, et c'est ce qui s'est passé, les émergences de résistance. Et il y a quelque chose que j'ai découvert assez récemment, ce sont les médicaments, génériques, et qui sont faits maintenant en dehors des licences des grands laboratoires qui ont mis au point les molécules. Et vous avez une ville en Inde, où les labos de génériques sont très très nombreux, qui a à peu près 90 laboratoires qui fabriquent des tas de molécules comme des antibiotiques. L'eau de la rivière qui draine cette ville dépasse de 100 fois les doses maximum toxiques pour n'importe quel être humain. Ce sont des pays où malheureusement les règles d'environnement, d'hygiène ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. quelque part, le fait de pouvoir faire des génériques de ces produits qui sont économiquement très intéressants, localement, peuvent poser des grands problèmes de toxicité dans les populations à côté desquelles ces laboratoires se sont installés. Et on est dans un schéma qui est global, qui est vraiment très compliqué. Alors, comme maintenant, on peut acheter un médicament fait n'importe où sur la planète parce que les transports le permettent, on est tous complices, c'est pas le mot, mais on partage tous en fait les mêmes responsabilités, sauf qu'on est parfois sans connaître les conséquences de ce qu'on va faire. Et comment partager tout ça, positivement j'entends, pour arriver à trouver des solutions communes dans l'intérêt global, je ne sais pas, mais il y a vraiment des situations difficiles, absolument.
Pour ce qui est de la question, du volet science-fiction, à ma connaissance, on n'est pas trop dans la recherche de solutions, mais plutôt dans la magnification d'un joli problème. Donc je peux trouver des bouquins sur des virus incontrôlables, des bactéries mortelles, des sociétés où la moitié de la population est rongée par un nanorobot qui est devenu fou. Mais alors des trucs axés sur la solution, ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit là.
Ou alors il faudrait quelque chose où finalement, si la bactérie est résistante, à ce moment-là, il faut que nous, on devienne résistant à la bactérie. Et là, on commence à aller sur toutes les science-fictions qui parlent sur le génie génétique, le transhumanisme et la modification de l'humain, pour que l'humain résiste mieux à son environnement après l'avoir pourri une bonne fois pour toutes.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Là, par ici.
Oui, je n'ai pas entendu de référence à Darwin dans votre analyse, parce que ce soit dans les résistances aux antibiotiques, dans la survivance de certaines bactéries, que ce soit dans votre frigo à l'hôpital, parce qu'on veut détruire tout, finalement, il y a des bactéries hyper résistantes, etc. Vous ne faites jamais référence à Darwin dans votre analyse ?
Alors, je ne vois pas où vous êtes, simplement pour... d'accord, ok. J'ai pas parlé de Darwin, mais j'y pense régulièrement. Ça ne se voit pas, mais bien sûr. Je trouve qu'une des meilleures applications, démonstrations de l'évolution, c'est simplement l'évolution des bactéries. Comment quelqu'un qui a un traitement antibiotique contre une bactérie, parce que les bactéries sont sensibles, mais pas les virus sont antibiotiques, si on fait un antibiogramme avant de traiter quelqu'un, c'est parce qu'on sait que les bactéries évoluent et qu'on va chercher l'antibiotique qui sera efficace par rapport à cette bactérie. C'est totalement de l'évolution darwinienne, bien sûr. Avec, en plus, chez les bactéries, des façons d'échanger des gènes que nous, on n'a pas chez les vertébrés, par exemple. Enfin, bon.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Moi, je vous parle en tant que médecin. J'ai des patients qui me posent la question sur les perturbateurs endocriniens. C'était un des thèmes que vous êtes peut-être abordé. Moi, je ne sais vraiment pas du tout à quoi il faut attendre et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire aux patients pour... Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça enclenche comme pathologie ? Si vous avez des exemples concrets.
Merci. Alors, moi, j'ai lu il y a très longtemps un livre qui s'appelait L'homme en voie de disparition et qui est une très bonne introduction, je pense, à ce sujet-là. Le perturbateur endocrinien, c'est un élément de l'environnement qui n'est pas biologique.
En fait, nous sommes dépendants d'hormones dans notre organisme. Et il se trouve qu'avec un certain nombre de molécules qu'on utilise pour différentes raisons pour nous soigner, on arrive à contaminer l'environnement. Et il y a des exemples qui ont été assez célèbres dans certaines rivières où les poissons étaient exposés à des hormones humaines féminines. Et donc, on n'avait plus que des poissons femelles, par exemple. Et ce sont des exemples qui sont en fait liés à la fois à ce qu'on utilise et à la quantité d'humains que nous sommes sur Terre. Je rappelle qu'on rajoute 1 milliard d'humains tous les 13 ans actuellement. Ça fait quand même beaucoup. Il y a un moment, forcément, ça va se terminer d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas comment, mais ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. La croissance dans un monde fini, elle est forcément finie aussi. Et alors, moi, je ne suis pas spécialiste du sujet du tout. Il y a des collègues, des gens du muséum qui ont fait des très belles conférences sur le sujet. Et c'est vraiment une approche où simplement, nous, on utilise donc les hormones, qu'on a compris comment ça fonctionnait, pour nous. Et simplement, ce sont les déchets que nous rejetons qui contiennent les restes de ces molécules qui se recyclent à travers l'environnement et qu'on peut à nouveau retrouver dans notre boisson, sachant que les premiers exposés sont des vertébrés qu'on trouve dans notre environnement avant même l'espèce humaine.
Après, il y a aussi des perturbateurs endocriniens qui ne sont pas des hormones, qui sont des plastiques, qui sont des éléments du chimique. On ne s'attendait pas forcément au départ à ce que ça agisse comme des hormones.
Oui, alors pour répondre aussi, autant que je sache, au niveau maladie avérée, Bon, il y a les problèmes de fertilité qui sont fortement suspectés. Ayant un fils autiste, on m'a également parlé de ça. Alors, on ne peut jamais le prouver, c'est un peu le souci. En fait, la plupart des cas, ce n'est pas démontré formellement que ça vient des perturbateurs endocriniens, les problèmes de croissance, la puberté précoce, etc. C'est très probable, mais à chaque fois, je n'ai jamais vu qu'on nous mettait une preuve sur la table en disant « c'est dû à ça ». Par contre, c'est forte présomption, je me trompe.
Ce qui est très compliqué en science, mais ça, vous devez le savoir, si on veut chercher un lien entre deux phénomènes, on peut chercher, on peut dire, statistiquement, j'ai quand même une probabilité non négligeable que cet événement ait causé cette conséquence. Inversement, si je ne trouve pas, je ne peux dire que je n'ai pas trouvé. Je ne peux jamais dire que ça n'existe pas. Et donc, c'est une question de méthodologie. On ne peut jamais prouver l'absence de quelque chose. On peut juste dire « je ne l'ai pas trouvé ». Et c'est vrai que dans des phénomènes qui peuvent toucher peu d'individus sur une grande population, le souci, c'est à nouveau de trouver des populations comparables sur l'ensemble des paramètres, sauf celui qu'on veut étudier. Et c'est de plus en plus compliqué. Et de bonne foi ou de mauvaise foi, il y a toujours des gens qui vont vous dire « là, il y a un biais, là, il y a un biais, là, un biais ». Et donc, en conséquence, on ne peut rien dire, on continue. On continue.
Pour revenir sur cette question, au niveau de la qualité de l'eau, puisque c'est par l'eau aussi que ça passe, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée sur l'élimination de ces déchets de l'eau qu'on boit, par exemple ?
Ah oui, ça c'est quelque chose qui est quand même pris en compte. Et normalement, alors, on a la chance dans ce pays d'avoir quand même en partie des zones de distribution d'eau potable qui soient à peu près correctes. Mais c'est vrai, quand même dommage d'imaginer que avant on avait l'eau du puits et maintenant il faut aller au supermarché acheter des bouteilles d'eau minérale par 12 pour remplacer l'eau du puits qu'on ne peut plus boire. C'est quand même pas forcément un progrès gigantesque. Et l'eau potable est déjà un enjeu majeur sur la planète. Enfin, c'est... Imaginez les grands fleuves. Je ne suis pas du tout géopoliticien, mais les pays vont tous mettre des barrages sur les grands fleuves qui alimentent tout un continent en aval. Peu importe, eux, ils auront l'eau, puis en dessous, ils se débrouilleront. Enfin, le Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis, tout le monde sait comment ça marche. Les grands fleuves de Chine qui partent du Tibet, pourquoi les Chinois sont au Tibet, voilà. La Turquie par rapport au Tigre et à l'Euphrate, comment ça va se terminer, tout ça. Et il y a des pays entiers qui dépendent de ces fleuves. Et c'est de l'eau en partie potable. Et c'est vraiment des enjeux majeurs. Ça risque de mal se terminer. Enfin, mais non, mais on reste optimiste, bien sûr.
C'est de la science-fiction.
Ah, c'est pas si... Ouais.
Il nous reste une dernière question. Alors, je ne vois pas où... Ah, par ici. Je ne sais pas où se trouve le micro. Merci, parfait.
Merci, bonjour. Je me posais une question par rapport à un thème que vous n'avez pas non plus abordé, ce sont les allergies. Pourquoi, du coup, y a-t-il de plus en plus d'allergies ? On entend souvent ça dans l'actualité, que les gens allergiques à ceci ou cela augmentent en nombre depuis des décennies. Et à quoi ce serait dû ? Peut-être une augmentation des allergènes, un changement de
vie ? En fait, c'est ça, un peu le contraire, en fait. Alors, c'est... À nouveau, une étude avec des grandes cohortes qui ne sont pas simples à manipuler, qu'il faut interpréter avec beaucoup de précautions. Mais la grande différence de nous par rapport aux quelques générations précédentes, c'est qu'on est complètement urbanisé maintenant et que de ce fait, on vit loin des animaux de la ferme. Et l'étude en question à laquelle je me réfère avait montré que la différence qui expliquait à la fois allergie et également certaines maladies auto-immunes, c'était le fait de ne plus être au contact des animaux de la ferme. Or, si vous avez près de chez vous trois cochons, deux vaches et un mouton, vous êtes parfois sollicité par les micro-organismes de ces animaux-là qui vont stimuler régulièrement vos défenses immunitaires. Et globalement, nous vivons dans un monde qui est plus propre que quand on vivait à la campagne, peut-être dans les petits villages, avec une hygiène différente. Donc, on est plus propre au niveau hygiénique, mais on a toujours l'armement développé par 200-300 000 ans d'espèces humaines, Homo sapiens sur Terre, pour lutter contre tous ces parasites antigènes et microbes. Et du coup, on est surarmé par rapport à plus rien qui vient nous agresser. Et du coup, de temps en temps, l'organisme se dérègle et le système immunitaire va s'enclencher contre ses propres cellules. Ou bien on va déclencher une allergie parce qu'on n'aura jamais connu, quand on était enfant, quand on était plus jeune, au moment où on formait un peu le système immunitaire et les cellules qui allaient lutter contre les allergènes. On n'a pas eu ces contacts enfants et donc on est surpris adulte et on développe des formes allergiques. Donc ça pourrait être paradoxalement une conséquence de l'hygiène qu'on a développée sur les quelques générations les plus récentes.
Oui, il est l'heure. Alors, on ne vous entend pas, Attendez. Sur 30 secondes, parce qu'on va devoir laisser la place à la table ronde suivante.
C'était juste pour répondre sur les allergies. Du coup, je ne comprends pas, parce que moi, personnellement, je suis allergique au chat, et j'ai des chats à la maison depuis que je suis petite. Donc
Non, mais c'est toujours pareil. L'épidémiologie, c'est la population, ce n'est pas l'individu. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Bravo, regardez une exception.
L'allergie, c'est le système immunitaire qui ne sait pas reconnaître une menace comme quelque chose qui finalement devrait être anodin. Donc il surréagit. Après, effectivement, il y a des désensibilisations qui marchent et d'autres qui ne marchent pas.
Mais on parle toujours au niveau population, au niveau groupe. Alors chacun peut dire, oui, mais moi je suis comme ci, je suis comme ça, c'est vrai. Je ne mets pas en doute ce que vous dites, mais il faut raisonner. Si on raisonne au niveau de la population, on a cette tendance-là. Voilà, mais vous êtes dans la tendance différente. J'y peux rien.
On peut remercier nos invités. Ils seront dans quelques instants en signature à la librairie. N'hésitez pas à continuer à prolonger la discussion avec eux à cette occasion. Merci beaucoup à vous. Au revoir.